CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un mag consacré à la prochaine conférence de l'Université Populaire de Caussade. C'est ce samedi à 16h30 au Récollet, une conférence animée par Michel Auvry, il est historien et journaliste, auteur de « Histoire des citoyens du monde, un idéal en action de 1945 à nos jours ». C'est justement le thème de cette conférence. Kersinois, il se voulait citoyen du monde. Michel Auvry, on le recevra dans ce mag après. La chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On est avec Victor Le Guénec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et tout de suite, on cause jazz, mode, impro et trompette. Je vous annonce la couleur de but en bleu. Aujourd'hui, c'est Kind of Blue de Miles Davis. Sorte de bleu qui sont un album des plus mythiques de l'histoire du jazz. Alors, contextualisons. Né en 26, Miles Davis grandit à East St. Louis, là où eut lieu, en 1917, l'un des lynchages les plus sanglants des États-Unis. Et c'est dans ce décor qu'il découvre le racisme et débute la trompette. Inscrit plus tard à la Juilliard School à New York, il s'en désintéresse. Alors il squatte les clubs de la 52e rue, à la recherche de jam et de musiciens. Bref, ça bebop à tout va dans la fumée des clubs. Cependant, il manque de technique pour prétendre au niveau des Fats Navarro ou autres Dizzy Gillespie. En 1949, à 23 ans, malgré quelques albums enregistrés, notamment Birth of the Cool, sa carrière n'a pas décollé. Arrive la première tournée. Au Festival International de Jazz de Paris, tout le monde est là. Parker, Béchette, Damron, Reinhardt, là-bas, il y découvre la passion des Parisiens pour le jazz, mais aussi un monde moins raciste, plus ouvert. Il y rencontre Picasso, Sartre et surtout Juliette Gréco, avec qui il entame une relation. Là-bas, il l'intrigue. C'est un petit séjour paradisiaque avant de rentrer à New York et de sombrer dans l'enfer de l'héroïne et de la cocaïne. C'est finalement en 54, presque clean, qu'il passe d'un excellent trompettiste à un jazzman de génie. En 58, à l'époque où le jazz, musique anticonformiste par excellence pour les réalisateurs, entre au cinéma par la grande porte, Miles, lui, traîne encore à Paris, gigantesque carrefour musical. Et là où les Jazz Messengers avec Art Blakey, Monk et Lee Morgan enregistrent pour les Liaisons dangereuses de Vadim, Miles, lui, improvise en direct la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Puis vient l'année 1959, l'année de la pilule de la puce électronique de Zazie dans le métro et de Fidel Castro. On est en pleine course à l'espace. En France, la nouvelle vague bat son plein et Blondin publie Un singe en hiver. Aux États-Unis, Preminger sort dans les salles Anatomie d'un meurtre. Tout explose. Le maccartisme s'est éteint et le Vietnam brûle. Cette année-là, sortent les albums Giant Step de Coltrane, Tomorrow is a Question d'Ornette Coleman et surtout Kind of Blue de Miles Davis. Trois albums sans réelles équivalences dans l'histoire du jazz de l'époque, c'est fondamentalement nouveau. Miles enregistre chez Columbia, une des plus anciennes maisons de disques fondée en 1889. Le label où il faut être, celui qui domine le marché du disque, celui qui a produit Bartok et Armstrong, Ellington et Michael Jackson, Simon & Garfunkel. Et il s'installe dans le studio de la 30e à Manhattan, le plus grand des meilleurs studios. C'est une ancienne église arménienne. 30 mètres de long sur 15 de large et de haut, une acoustique naturelle parfaite et un dispositif de réverb improbable. On repique avec des micros les sons diffusés par des haut-parleurs qui résonnent dans les sous-sols. Là-bas, ils sont passés Stravinsky, Gillespie, Les Floyd, Joplin, Dylan, bref, tout est prêt. Arrivent les protagonistes. Outre le charismatique et sûr de lui, Miles à la trompette, son exact opposé, l'introverti Bill Evans au piano, à l'exception d'un morceau joué par Wynton Kelly, mais aussi les saxophones de John Coltrane et celui de Cannonball Adderley. On retrouve en plus Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. Miles, avec sa first take philosophie, la première prise est la bonne, esquisse sans répétition avant la séance les idées musicales, mais laisse la spontanéité prendre le dessus. Et l'enregistrement débute. Enregistrement en live, c'est à peine le début du multipiste. Dans cet album, Miles Davis explore les modes. Entendez, une échelle sonore révélant une ambiance, pas d'harmonie complexe, de gamme qui défile, mais on explore, on se promène. Ce qui dégage, par rapport au bebop, une formidable liberté d'expression. Avec le morceau So What, sur une structure AABA classique, Miles et son groupe nous donnent l'exemple type du jazz modal. Après l'exposition du thème, qui s'inspire de l'hommage à Rameau de Debussy, les chorus s'enchaînent un par un et nous promènent ces fluides mouvants et mélodieux, bref, une atmosphère liquide. Mais je m'emporte. Kind of Blue, un album de 5 morceaux qui deviendra l'album de jazz le plus vendu au monde. L'équivalent de 4 disques de platine, un album que vous pouvez retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Et tout de suite, on en écoute un extrait. Alors, on ouvre grand ses gourdes pour rien d'autre que So What. Bonne écoute et à bientôt. Thank you.
Davis à l'instant dans cette chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr.
CFM Kélus, le mag.
Et ce mag à propos d'une conférence qui nous est proposée par l'Université Populaire de Caussade, c'est ce samedi 18 mars, c'est à 16h30 au Récollet. C'est dans le cadre des cycles de conférences qui nous sont proposés donc par l'UP Kersinois. Il se voulait citoyen du monde. C'est une conférence qui sera animée par Michel Auvray. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, auteur de « Histoire des citoyens du monde, un idéal en action de 1945 à nos jours ». On va parler citoyens du monde, donc charte de mondialisation des communes, des villes du monde, signée en 1950. Route mondiale, route sans frontières dans la borne numéro 1, est située à Cahors Mundi. Cahors Mundi, c'est Cahors. Comment est-ce que ça a commencé tout ça ?
Ouh là là, ça a commencé très loin, parce que l'idée de Gary Davis, 1948, Gary Davis, ancien pilote de bombardier américain, qui a quelques problèmes de conscience, parce que effectivement, il a contribué au bombardement et à l'extermination de populations civiles en Allemagne. Et il vient en France par le Havre et il rend son passeport pour se déclarer premier citoyen du monde. Alors premier citoyen du monde, faut relativiser quoi. Il y avait quand même eu un certain nombre de gens qui se voulaient citoyens du monde avant lui, de Socrate à Montesquieu en passant par Victor Hugo et j'en passe. Il y avait même une association qu'avait créée Robert Sarrazac. Robert Sarrazac, c'était un ancien colonel qui avait été résistant, qui avait créé dès 1946, deux ans auparavant, un cercle, effectivement, une association de citoyens du monde à Paris. Donc, au départ, c'est vrai que ce vœu apatride, il profite d'une réunion qui est une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à Paris, qui se tient effectivement en septembre, de septembre à décembre 1948. Et il demande, comme apatride, il demande asile à l'ONU en vain. On lui refuse. Voilà.
Mais
et de là
Cahors,
va découler tout un mouvement de solidarité. Quoi.
Oui, on s'enflamme voilà. Totalement hein, du côté de Cahors spécifiquement.
Alors, d'abord c'est la région parisienne, puis c'est nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons, parce que par exemple quelqu'un comme Einstein qui lui il se voulait apatride aussi pour ne pas faire le service militaire en Allemagne, il s'était échappé en Suisse, puis il a eu mis pendant quelques années il a été apatride avant d'être citoyen suisse, de revenir en Allemagne. Et il a fui l'Allemagne, il a fui l'Europe, il n'est jamais revenu en Europe à partir du moment où Hitler a pris le pouvoir en janvier 1939. Mais c'est dans un deuxième temps que Cahors et le Lot vont effectivement participer de cette dynamique. Dans un premier temps, il y a des gens de nombre de pays qui veulent faire comme Gary Davis, non pas renoncer à leur nationalité, non pas renoncer à leur papier d'identité, mais être aussi, tout en restant français, chilien, anglais, que sais-je, indien, qui veulent aussi être citoyen du monde et qui demandent effectivement à être inscrits sur un registre. Il y a un fort mouvement de solidarité auquel participent nombre d'écrivains français, alors de Breton à Camus, en passant par Queneau, Vercors. Il y a la presse, une bonne partie de la presse issue de la résistance de combat à franc-tireur, Libération, l'ancienne Libération, qui soutient le mouvement. Le Monde, le quotidien qui vient de naître en 1945, comme le Canard enchaîné, issu de la Première Guerre mondiale, qui soutiennent fortement. Il y a vraiment toute une dynamique avec des rassemblements, avec des manifestations, des réunions publiques. C'est effectivement, Cahors va être au centre de l'activité pendant un deuxième volet qui va être celui de non plus des individus qui seraient citoyens du monde, mais des collectivités, des communes, des villes et des villages qui se veulent mondialiser.
Alors on a 239 communes en 1940, communes du Lot, hein, du département, oui. Qui ont adopté...
Sur 330, hein. Sur 330, c'est énorme.
Une charte... C'est énorme. Vous nous parlez de cette charte de mondialisation des communes et des villes du monde ?
Oui, alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que le terme mondialisation, ce sont les citoyens du monde, ce sont les mondialistes de l'époque. en 1948-49, qui crée ce terme-là, comme il crée le terme mondialisme, mondialité, se mondialiser. Le terme mondialisation n'est pas celui qu'on emploie depuis les années 1990, qui n'a rien à voir, qui est plutôt celui de la liberté des marchés, de la libre circulation, non pas des migrants, non pas des hommes, mais des marchandises et des capitaux, ce qui est tout à fait autre chose. Quoi. Mais le terme mondialisation, c'est la communauté de destin, c'est se vouloir, on irait vulgairement dans le même bateau, c'est-à-dire que les intérêts des habitants, des villes, des communes, des villages, d'un pays à l'autre, au-delà des frontières des États, sont communs. Et ce qu'ils mettent en cause, c'est qu'il y a eu beaucoup d'espoir dans l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, née de la Charte de San Francisco en 1945, et qu'il n'est plus universaliste, mais du fait de son fonctionnement avec les représentants des États, avec le veto soviétique, est une tribune politicienne, mais qui ne règle rien, alors qu'il y avait un espoir, et un espoir partagé par le fondateur de l'ONU, qui était Roosevelt. Quoi. Et donc, il y a ce souci, je dirais, de fraternité universelle. J'aime citer cette expression de Victor Hugo, bon, 19e siècle, mais disant, être citoyen du monde, c'est avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. C'est-à-dire, on est effectivement, il y a une communauté de destin, au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos langages, au-delà de nos drapeaux nationaux, on a des intérêts communs. Et le premier des intérêts communs, c'est celui de la paix. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, alors c'est une époque particulière que j'ai beaucoup étudiée, c'est effectivement les années 1945, mais surtout 1947 à 1953. Pourquoi ? Parce que 1945, Hiroshima, Nagasaki trois jours après, première bombe atomique, c'est terrible. Et c'est une prise de conscience d'Einstein à Camus, la même dénonciation se fait jour. C'est si on n'arrive pas à se mettre d'accord au-delà des frontières, au-delà des drapeaux, la Troisième Guerre mondiale sera la destruction complète. Donc, selon la formule d'Albert Einstein, c'est un monde uni ou le néant. C'est vraiment quoi. Il faut faire la paix. D'autant qu'à partir de 1947, c'est ce qu'on va appeler la guerre froide. L'opposition Est-Ouest, d'un côté Washington, de l'autre côté Moscou, qui prend cœur aussi en France, parce que le Parti communiste est le premier parti électoralement de France, à la suite de la résistance, et qu'il y a effectivement une opposition très dure et des camps très tranchés entre ceux qui prennent parti pour l'atlantisme, donc les États-Unis, et ceux qui prennent parti pour les États soviétiques, pour l'Union soviétique. Et c'est vrai que l'espace de neutralisme, c'est un terme qu'on emploiera à l'époque aussi, est très étroit. Mais il y a cette opportunité, et pendant quelques années, il y a effectivement cette tentative de vouloir dépasser l'opposition des deux blocs, et de vouloir essayer d'empêcher que la guerre froide se transforme en guerre chaude, ce qu'elle fera après, effectivement, dès 1950 avec la guerre de Corée, mais c'est une autre histoire.
Et les citoyens s'emparent de ce mouvement citoyen du monde. Les politiques aussi, on parlait de la charte de mondialisation des communes. Alors j'en parlais, puisque Michel Auvray, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Je rappelle que vous êtes historien et journaliste, que vous allez proposer une conférence ce samedi à Caussade Quercinois. Il se voulait citoyen du monde. J'ai encore plein de questions à vous proposer, notamment à propos des bornes qui jalonnent la route sans frontières, la route mondiale au départ depuis Cahors. Plein de questions donc que je vais vous poser juste après la musique dans ce mag.
Savoir qui est la plus belle de vous deux, et savoir qui est la plus belle de moi, elle est amoureuse, savoir. Mais la jambe vers la mémoire, savoir lequel de moi est tendre, est amoureux de toi, la plus belle, et de savoir qui est la plus belle de vous deux, et la jambe vers la mémoire. Être capable de toi sur moi, capable de quoi sur toi, savoir si après tout tu m'aimeras. Mais la jambe perd la mémoire. Et tout le temps gentil tu dis que je suis, tout le temps gentil tu disparais, réapparais. Putain, faudrait savoir. Et la jambe perd la mémoire.
que la plus belle de moi, elle est amoureuse de sa voix. Elle la jambe vers la mémoire.
CFM Quélus, le mag.
De retour dans ce mag du Tarn-et-Garonne, nous on est en train de vous proposer une conférence organisée par l'Université Populaire de Caussade. Ce sera donc à Caussade, au Récollé, ce samedi à partir de 16h30, une conférence autour des citoyens du monde. Car Sinois, ils se voulaient citoyens du monde, une conférence qui sera animée par Michel Auvray, historien et journaliste. Alors on parle notamment de routes sans frontières. Au départ, depuis Cahors, rebaptisée Cahors Mundi, la borne numéro 1 est à côté du pont Valentré. Elle a été restaurée récemment, je crois.
Oui. Alors, il y a toute une symbolique de ces bornes, parce que c'est en juin 1950 qu'il y a une réunion de citoyens du monde venus de nombre de pays à Cahors, que Cahors a pris l'initiative d'être c'est le premier conseil municipal qui, sur ce modèle-là, a adopté la charte et s'est voulu mondialiser. Et c'est vrai que la municipalité, justement, on parlait de Cahors froide, les 7 élus communistes s'abstiennent à Cahors, ne votent pas, mais tous les autres, qu'ils soient radicaux-socialistes, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient gaullistes, ou démocrates chrétiens, je pense à l'abbé Pierre, qui est fortement engagé dans ce mouvement-là, votent effectivement cette charte-là. Le mouvement prend par des réseaux de sociabilité. Parce que des gens prennent ça à cœur, notamment des médecins. Des médecins qui se sont parmi les seuls à avoir des véhicules et des bons de circulation avec, au point de vue essence, parce qu'on a oublié complètement, mais 1949, la Seconde Guerre mondiale n'est pas loin. C'est en décembre 1949 que les restrictions seront levées sur le pain et sur l'essence. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'était contingenté. Il y a ce souvenir de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le 24 et le 25 juin 1950 ont lieu à Cahors ce qu'on appelle des journées de la mondialisation pour fêter la mondialisation de la ville et d'une bonne partie du département du Lot, les deux tiers des communes, pour rassembler aussi des gens qui vont soutenir ce mouvement. Je pense au prix Nobel de la paix de l'année, Lord Boyer, qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix en décembre 1949, qui vient à Cahors pour participer effectivement à ces manifestations. Et c'est alors qu'est inaugurée une route sans frontières, qui se veut la première route mondiale, qui doit partir de Cahors, du pont Valentré effectivement. En fait, il y a une première borne qui est inaugurée la veille à Figeac, mais comme il y avait moins de journalistes et moins de personnalités, on ne part pas forcément. Celle de Figeac est oubliée. Mais celle de Cahors va laisser des traces dans la mémoire. Et c'est vrai que de village en village, le long du Lot, jusqu'au bas de Saint-Cyr-la-Popie, qui est déjà touristique, dans le Tour de Fort, des bornes sont inaugurées. C'est le 24 juin. Le 24 juin, c'est la Saint-Jean. Donc, les bornes sont inaugurées avec des feux de Bengale. C'est la fête. Il y a feu d'artifice au pont Valentré. Il y a feu d'artifice à Saint-Cyr-la-Popie. C'est là que André Breton, le poète surréaliste, découvre Saint-Cyr-la-Popie, il revient le lendemain, se fait payer l'ancienne auberge des mariniers par son père et passera pendant 15 ans tous les étés à Saint-Cyr-la-Popie. Mmh. Bon, la popularité d'André Breton contribuera effectivement à cette mémoire. Mémoire réactivée par des élus, mais par des citoyens du Lot qui vont vouloir revendiquer l'héritage des aînés et leur rendre hommage. Et donc, ces bornes, je pense, pour le centenaire de l'anniversaire d'André Breton, une borne, par exemple, est installée à Saint-Cyr-la-Popie, donc 46 ans après. Mais en 1950, à l'initiative de la municipalité de Cahors, il y a de nouvelles bornes, parce que les bornes, 50 ans après, ont été saisies par la rouille ou par des amateurs ou par des collectionneurs des antiquaires. Bon, et il y a de nouvelles bornes qui sont installées. Et puis après, c'est vrai qu'il va y avoir une époque, je pense, parce que j'ai beaucoup fréquenté ces jeunes-là de carrosserie dans le lycée de la ville, le lycée professionnel, lycée Monnerville, qui, sous la direction de leurs enseignants, tant de carrosserie que d'histoire, vont vouloir réhabiliter des bornes, les restaurer, et puis en construire de nouvelles. Et c'est le cas, c'était le cas en 2019 pour Cahors-Saint-Cyr-la-Popie, c'était le cas en juin l'année dernière pour Bouziers-Sévère, qui sont encore des communes le long du Lot où on réactive cette mémoire-là. Alors, c'est vrai que les bornes sont assez symboliques d'une route qui partait pour traverser la planète et qui s'est arrêtée effectivement à tour de force au bas de Saint-Cyr-la-Popie.
Alors, vous parlez de mémoire. Alors, cet événement a fait la une de la presse à l'époque. Hein. On est aux alentours de 1950. Et pourtant, aujourd'hui, ces bornes, on n'entend plus tellement parler. En tant que historien, journaliste, comment vous avez pu mener vos recherches autour de votre livre, notamment, livre Histoire des citoyens du monde, un idéal en action de 1945 à nos jours. Et puis, pour cette conférence ce samedi à Caussade.
Oui, d'une manière très simple, c'est... je ne vous cache pas que mon premier livre d'histoire tout seul, c'était il y a 40 ans précisément. Réfugié dans le Lot à la retraite, bon, j'ai gagné ma vie comme journaliste, je ne gagnais pas ma vie avec mes livres d'histoire, il aurait fallu faire des romans qui se vendent beaucoup. Bon, je vivais du journalisme de la presse écrite, bon, ouais, donc à Paris. À la retraite, j'ai découvert cette histoire-là. Parce que je l'avais un peu évoqué dans mon premier livre, l'histoire le Gary Davis qui à un moment, par pacifisme aussi, avait soutenu des objecteurs de conscience en France. Et c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y avait une mémoire très forte dans le Lot, et précisément, pas dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot, et particulièrement à Cahors, à Saint-Cyr-la-Popie, une mémoire très forte de ces événements. Bon. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai passé 5 ans, hein. 5 ans de recherche, et en commençant tout bêtement, au départ, par qu'est-ce qu'il pouvait y avoir aux archives départementales, donc à Cahors. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir aux archives municipales, à Cahors, à Figeac. Puis je me suis rendu compte que l'événement avait pris des proportions importantes, quelques années plus tard, dans le Gard. J'ai été consulté dans le Gard. Puis, mais la presse mondialiste, c'est-à-dire, il y a 5 journaux, 5 périodiques qui parlent des citoyens du monde ces années-là, 5, donc qui ont disparu depuis lors. Vous consultez toute la presse nationale, comme disait Le Monde, comme disait L'Humanité, comme disait François, comme disait le Canard Enchaîné. J'ai été consulter les archives du Canard Enchaîné. J'ai été, alors, les rapports de police, les rapports de police, vous savez, c'est comme pour les manifestations actuelles, on ne sait jamais quels sont les chiffres. Bon, ben, il fallait aussi avoir la vie. J'avais découvert à Cahors qu'il y avait, il s'est passé tellement d'événements dans le Lot en l'espace de 2 ans qu'il y avait 58 rapports de police qui étaient consacrés à ce moment-là. Des témoignages. Mais il n'y avait pas de travail historique. Et le Monde a toujours consacré un article à mes bouquins. Et là, d'entrée de jeu, dès que le bouquin est sorti, 8 jours après, j'avais l'article du Monde. Et puis j'ai eu Le Canard Enchaîné, et puis j'ai eu le 5 revues d'histoire qui compte. Au total, j'ai eu 27 articles de presse sur le livre. Je crois que ça a touché du monde. Il n'y avait rien sur le sujet.
Oui, c'est un événement qui a été très, 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 très important à l'échelle de la planète, à l'échelle mondiale. Le mondialisme, donc, non pas comme on l'entend de nos jours, mais mondialisme en tant que citoyen du monde, a un gros, gros impact à l'époque, et puis qui est un peu tombé à la trappe, là, on peut dire.
Et qui a été oublié, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il a été oublié. Oui,
revivre cette époque à travers la conférence que vous allez animer, Michel Auvray, historien et journaliste. Alors, vous avez l'air très bavard, il saura tout.
J'ai limité, ça fera autour d'une heure. Voilà.
C'est ce samedi à 16h30 au Récollet. C'est une conférence gratuite, puisqu'elle est proposée dans le cadre du cycle de l'Université populaire de Caussade. C'est la dernière de cette année. Donc, il faut absolument venir vous rencontrer, Michel Auvray, vous écouter. Donc, 16h30 au Récollet ce samedi. Michel Auvray, merci beaucoup et à samedi.
Et merci à vous.
Et merci à tous d'avoir été avec nous pour ce MAG. Vous pouvez réécouter bien sûr à 18h ainsi qu'à 21h et en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Là, c'est les